Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette émission de rentrée, l'Afghanistan. Avec le retour des talibans, nous entendrons Jean-François Colosimo, éditeur, historien des religions, spécialiste de géopolitique, Zeina El-Tibi, docteur en droit, présidente de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, qui signe un essai sur la condition de la femme musulmane aux éditions du CERF. Et puis, à l'occasion des fêtes juives, demain c'est Rosh Hashanah, le nouvel an juif, David Alouche viendra avec son deuxième roman, publié chez Balan, nous parler de la mère juive. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Ce mois d'août 2021 restera marqué par la prise de Kaboul par les talibans, par le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan. Après 20 ans de présence, avec bien sûr l'attentat sanglant de Kaboul, la panique de milliers d'Afghans qui tentent désespérément de quitter le pays. Comment avez-vous regardé, Jean-François Colosimo, ces événements?
Alors, d'une part, nous arrivons en fait au terme d'une longue période historique qui a commencé, en fait, s'est enraciné dans la guerre froide, un peu plus tôt même dans les temps modernes, puisque l'Occident a toujours eu, je dirais, une difficulté avec l'Afghanistan, ce pays carrefour, ce pays verrou, ce pays d'altitude sans accès à la mer, cet état tampon qui a en fait été véritablement, au cours de toute l'histoire, une sorte de cimetière pour les empires. Lorsqu'on regarde historiquement, en fait, l'Occident a voulu affirmer en quelque sorte, la suprématie de ses valeurs à travers le monde au temps moderne, et immédiatement, les Britanniques, par exemple, qui étaient très soucieux des routes commerciales, se sont confrontés, en fait, à la résistance afghane, au point que finalement, les Britanniques ont laissé les Afghans administrer leurs affaires intérieures, parce que ce pays qui est à la fois extrêmement religieux et extrêmement indépendantiste n'était pas gérable. Ça, c'était en 1880. Donc, vous voyez, il y a en quelque sorte rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'islamisation, évidemment, du monde. C'est le monde qui a changé. Ce n'est pas tellement l'Afghanistan. Alors, l'Amérique a pris, je dirais, la primauté dans la représentation d'un certain Occident, a embarqué l'Europe dans cette aventure. Le vrai conflit entre les Américains, et les islamistes, depuis le départ des Soviétiques, c'est pas puisque l'invasion en 1979 par Moscou a marqué la défaite, de ce système athée. Ce sont les Moudjahidines qui, au nom d'Allah, ont gagné la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, le 11 septembre 2001? Eh bien, Ben Laden est venu contester à George W., à Bush Jr., la victoire sur l'athéisme dans le ciel de New York. C'est ça qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, l'Afghanistan a joué comme une cible, mais on voit qu'aujourd'hui, cette séquence se ferme, l'Amérique se replie, elle se replie sur elle-même, elle renonce à affirmer la suprématie de ce qu'elle considère être ses valeurs à l'échelle du monde, elle admet sa défaite, et en fait, l'Afghanistan retourne à son tribalisme. C'est cela qui se passe, n'est-ce pas? Donc c'est une défaite très cuisante, et cette séquence ferme tout l'avènement d'une idéologie qui, elle aussi, était religieuse, ce qu'on a pu appeler le néoconservatisme, l'affirmation de la République impériale américaine qui allait propager, au nom de l'Empire du Bien, la démocratie à travers toute la planète. Ce sont véritablement, au fond, deux systèmes de représentation religieuse qui sont assez en cousinage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont relativement toutes les deux fondamentalistes, qui sont toutes les deux à visée hégémonique, qui toutes les deux sont convaincues d'incarner la vérité, qui se sont affrontées, et l'Amérique aujourd'hui se retire. C'est un échec très cuisant pour sa propre représentation symbolique, pour son mythe fondateur.
Et est-ce que selon vous, Jean-François Colosimo, les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes, notamment dans leur idéologie religieuse, est-ce que ce sont les mêmes que ceux d'il y a 20 ans ?
Ce sont à la fois les mêmes et pas les mêmes. Ils ont appris, n'est-ce pas, de leur faute. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les talibans, qui sont-ils d'un point de vue religieux? c'est l'école Déobandi. Quelle est cette école? Elle naît en fait dans l'Inde voisine comme en fait une manière d'armer la population contre le colonialisme britannique. Puisque cette école Déobandi, elle dépend d'une des grandes traditions canoniques, légalistes de l'islam, hanafite, qui met l'accent sur le caractère offensif, militant de l'islam, sur le djihad. Donc quand, en fait, les musulmans d'Inde, voisins des Afghans, ont voulu se rebeller contre l'emprise coloniale, ils sont allés chercher, évidemment, dans cet arsenal théologique, de quoi mobiliser. Cette école Déobandi, elle a continué sa vie, mais en fait, il faut savoir, et ce n'est pas une vision complotiste du tout, c'est la grande erreur des États-Unis, cette école Déobandi, elle a été largement encouragée à la frontière du Pakistan pour propager ce message de révolte militaire qui est inscrite en elle, cette école, mais elle a été encouragée par qui? Mais par la CIA, tout simplement. Et la CIA, voulant financer ces madrassas, ces écoles coraniques, ont dispensé à des millions de jeunes cette idéologie. Elle s'est appuyée en plus sur l'argent saoudien, sur le wahhabisme, et on a obtenu les talibans, qui sont en fait un croisement entre cette école Déobandi et le wahhabisme saoudien, c'est-à-dire qu'en fait on est sur véritablement un hybride qui redouble par deux fois, je dirais, l'islam le plus rigoriste, l'islam le plus légaliste, l'islam le plus conservateur, mais qui plus est, l'islam le plus assuré de ses droits à dominer. Voyez. Et donc là, ça a été ce tournant vers l'islam dans la propagande américaine et dans la géopolitique américaine. Les Américains se sont dit que face finalement aux soviétiques, aux communistes, aux rouges, finalement, les ultra-verts en fait représentaient une ressource. Ils ont véritablement encouragé la propagation de ce mouvement. Maintenant, les talibans, c'est aussi une réalité ethnique. C'est la réalité des Pachtounes, n'est-ce pas? Parce que là, on est vraiment sur un millefeuille oriental, et à la fois les arguments religieux, les arguments ethniques se mélangent, et donc ces Pachtounes, ce sont eux qui, en fait, composent la majorité du pays, et qui ont vocation à le dominer. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment changé? Eh bien, ils ont changé pas tant que ça, parce que vous voyez que déjà, le premier chef des talibans, le mollah Omar, qui avait été en quelque sorte fameux, parce que c'est une figure très très énigmatique, avait proposé aux Américains de leur livrer Ben Laden, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, c'était une affaire très gênante par rapport au pouvoir saoudien. Et les Américains ont tout à fait refusé. Et c'est comme cela que Ben Laden a pu fomenter le 11 septembre, et c'est comme cela que finalement les Américains sont intervenus en Afghanistan. Il y a eu une forme d'incompréhension mutuelle fondée sur l'idée que, au fond, les représentations du monde étaient très proches en termes, oui, on peut le dire, religieux.
François Colosimo, est-ce que cette arrivée donc des talibans au pouvoir va rebattre les cartes au niveau mondial?
Ça rebat les cartes au niveau mondial parce que, d'une part, évidemment, il y a ce signe du déclin de l'Amérique qui est extrêmement fort. Joe Biden a eu raison de se retirer. Pourquoi? Parce que les talibans, de toute façon, occupaient déjà 75-80% du territoire. Parce que le gouvernement qui, les États-Unis et les pays d'Europe avaient mis en place à Kaboul, était un gouvernement fantoche. Ça, c'est clair. On l'a vu, puisqu'il s'est effondré immédiatement, dès lors qu'il n'y a pas eu de troupes étrangères pour le soutenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Les accords de Doha prévoient que les talibans se refuseront à faire de leur pays un foyer de terrorisme islamiste.
Vous y croyez? Vous y croyez?
Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les talibans qui décident, c'est le Pakistan voisin. Le Pakistan voisin qui a une grande population pachtoune, le Pakistan voisin qui a, je dirais, joué très souvent un double jeu avec les talibans, avec Ben Laden à l'égard des États-Unis. Ça, c'est le véritable problème de la région. président problème de la région, il est à Islamabad, au Pakistan. Il n'est pas à Kaboul, en Afghanistan. Le deuxième point, c'est que les pays voisins, les grands empires qui entourent l'Afghanistan, n'est-ce pas, ou les héritiers de ces grands empires, la Chine, évidemment, l'Iran, la Russie, mais aussi la Turquie, via les républiques turcophones du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, etc. Ces grandes puissances, aujourd'hui, ce sont, on le sait, des puissances autocratiques qui jouent un jeu extrêmement dangereux, et la Chine particulièrement, avec tout le problème des Ouïghours, qui sont des musulmans persécutés de Chine, peut se sentir menacée par la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Donc, on n'en a pas fini. Ça, c'est assez clair. Ce avec quoi nous avons terminé, ce sont au fond nos illusions, peut-être pas forcément les nôtres d'ailleurs, les illusions portées par Washington, qu'il suffisait de faire du nation building, construire des nations, apporter la démocratie, et puis remodeler le Proche-Orient ou le Moyen-Orient comme on le voulait, en recréant des pays, en retraçant des frontières. Cette illusion-là, elle est morte, mais est morte aussi avec elle, finalement, je dirais, les fantasmes qu'on a nourris avec cette fameuse guerre planétaire contre le terrorisme, puisque dans ce cas-là, si cette guerre a vraiment été réelle, eh bien, il faut admettre qu'on a perdu une manche énorme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a la question de la mondialisation, n'est-ce pas? Et donc, cette question de la mondialisation fait que, si l'Afghanistan doit trouver une voie de progrès, ce sera à partir de ces fondamentaux, qui pour l'instant sont extrêmement tribaux et extrêmement fondamentalistes. Comment est-ce qu'on évolue à partir de là? Est-ce qu'on évolue à partir de là parce qu'on exerce sur ces peuples de la force et de la contrainte? La réponse est claire, on le voit, c'est l'échec. Et donc ça, c'est très grave. Ensuite, il y a une véritable question pour la France. C'est que la France avait tout un temps soutenu le retour du roi Mohamed Zahed Shah, qui était le roi légitime, qui était francophone, francophile, éduqué en France. Les États-Unis n'ont pas voulu de cette solution, parce que pour eux, elle n'était pas démocratique. Pourtant, le roi avait une légitimité symbolique énorme, n'est-ce pas? On a raté là une occasion, et au lieu de quoi, nous nous sommes mis, en quelque sorte, dans les pas des Américains, pour mener des guerres qui n'ont pas de sens pour nous. Et aujourd'hui, en fait, nous avons un véritable problème moral, c'est que les élites afghanes comptent beaucoup d'amis de la France, beaucoup de francophones, beaucoup de francophiles. Que faisons-nous pour ces élites qui aujourd'hui sont jetées sur la route de l'exode?
Précisément, est-ce que vous évoquez quelques instants effectivement la monarchie, ce qui fait la monarchie afghane? On dit que les monarchies effectivement en Afghanistan finalement concouraient dans le sens d'une réforme de l'islam.
Absolument. Vous savez, Zahir Shah a été exilé, bien sûr, avec, je dirais, les nombreux putschs qui avaient traversé son pays, puisque l'instabilité est aussi un des signes de l'Afghanistan. Il y a 12 chefs d'État qui ont été tués entre 1900 et 2000. Vous voyez.
Et parfois de façon atroce, d'ailleurs, oui.
Et parfois de façon atroce. Donc, mais lui avait réussi à, lors de la première défaite des talibans, n'est-ce pas, après 2001, c'est lui qui avait réussi à liguer les très nombreuses et diverses oppositions, dont certaines d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher, sont fondamentalistes, n'est-ce pas, mais pas talibans. Mais son prestige, son autorité avait fait qu'il avait pu concourir à une forme d'unité nationale. Et c'est très exactement ça le problème, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on passe de Dieu, finalement, à la nation. C'est quelque chose que nous avons opéré au temps moderne, n'est-ce pas, pour trouver un équilibre, un espace politique où différentes croyances ou incroyances peuvent cohabiter. Bon. On en est très loin aujourd'hui en Afghanistan, mais si on en est très loin, nous portons aussi tout de même, et c'est pas pour s'affliger, c'est pas les sanglots de l'homme blanc, nous portons une véritable responsabilité parce que nous avons suivi une politique aveugle qui n'a pas tenu compte, en fait, encore une fois, de la réalité des peuples. Et ça, c'est très grave d'un point de vue historique, mais aussi en quelque sorte moral, si nous considérons que nous avons quelques valeurs universelles. Pensons au sort des femmes afghanes, par exemple, n'est-ce pas?
Absolument.
Et si nous sommes attachés à ces valeurs, n'est-ce pas? Alors, apprenons à les défendre autrement que par le biais d'une sorte de dictature des armes, mais qui contredit le projet lui-même.
Oui, précisément, que peut faire l'Occident? Que pouvons-nous faire pour ces femmes afghanes qui sont les premières menacées? Jean-François Colosimo.
Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, face au désastre auquel nous avons participé, vous savez que nous avons tout de même de nombreux soldats qui sont morts en Afghanistan avant que nous l'autorisions nous-mêmes en 2014. Donc, face à ce désastre, aujourd'hui, malheureusement, il faut essayer d'engager un processus de dialogue avec les talibans, de manière à travailler à ce que ce dialogue finisse par les obliger, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a aussi chez ces talibans, et c'est dans sa fondation de cet émirat, en quelque sorte, cet émirat qui semble tout droit sorti d'un cauchemar, il y a malgré tout aussi la volonté de restaurer une forme de paix civile, même si beaucoup vont souffrir de cette paix civile. Pourquoi ? Parce que ces hommes qui arrivent au pouvoir, eh bien, ils sont nés dans la guerre et n'ont connu que la guerre. Et donc, il faut arriver, en fait, je suis désolé de le dire, parce que, évidemment, ça va à contre-courant, je dirais, des idées reçues, parce que nous sommes horrifiés, mais nous devons être horrifiés par nos erreurs et les méditer, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes face à un pays où la guerre civile va reprendre, puisque les Tadjiks, menés par le fils du commandant Massoud, ne se soumettront pas. Nous sommes dans un pays qui reste l'un des lieux de production de drogue, d'opiacés le plus grand au monde. Nous sommes dans un pays qui peut redevenir demain un foyer d'activisme terroriste islamiste international. Que faisons-nous ? Nous avons donné les clés du pouvoir à ces gens-là. Donc aujourd'hui, il faut être réaliste. Et il faut se battre sur chaque point, et évidemment, le point des libertés et le statut des femmes doit être l'un des premiers marqueurs.
Dernière question, Jean-François Colosimo, et retour en France. Va s'ouvrir très très prochainement le procès des attentats de 2015. Vous avez signé avec Régis Debray et Didier Lesky « République ou barbarie » aux éditions du Cerf. Et la conclusion finalement de cet échange, de ce débat entre vous trois, c'est que l'exception française, celle de notre laïcité, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, souvent très mal comprise à l'extérieur, très mal comprise dans le monde musulman, est plus que jamais indispensable à l'ordre du monde. C'est votre conclusion.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que lorsque vous prenez la liberté de conscience d'une façon telle que vous venez à être condamné à la fois par le Congrès des États-Unis et par la Ligue islamiste mondiale, vous vous dites qu'il faut continuer dans cette voie-là parce que cette chose, la laïcité, est certainement une chose indispensable dans le monde d'aujourd'hui. La mécompréhension totale à laquelle elle fait face en est la preuve.
Je vous remercie, Jean-François Colosimo. Donc, je rappelle que ce livre, effectivement, République ou barbarie, est publié aux éditions du Cerf. Merci pour cet éclairage sur l'Afghanistan.
Merci à vous.
La grande peur des femmes afghanes, on retiendra cette image à la mi-août, ce commerçant de Kaboul, qui alors que les talibans ne se sont pas encore emparés de la capitale, recouvre de peinture les visages de femmes qui ornent les vitrines de son magasin de robes de mariée. La question est angoissante. Que vont devenir les femmes afghanes, celles qui ont connu la terreur du régime des talibans de 1996 à 2001, celles plus jeunes qui, pendant ces 20 dernières années, ont pu étudier et se projetaient dans un avenir de femmes bénéficiant d'une certaine liberté. Avec nous pour en parler, Zeina El-Tibi, docteur en droit, présidente de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication. Zeina El-Tibi qui signe aux éditions du Cerf la condition de la femme musulmane. Zeina El-Tibi, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors, que craignez-vous le plus aujourd'hui pour les femmes afghanes ?
En fait, il est à craindre vraiment une régression assez importante, bien sûr, avec l'arrivée des talibans dans les grandes villes, notamment, parce qu'ils ont toujours été présents, en fait, dans les villes rurales. Mais là, prenant les grandes villes et imposant leurs lois, effectivement, la femme, la condition de la femme va régresser totalement. Quoique, on peut pas dire qu'elle avait beaucoup évolué pendant ces années-là. Il y en a que très peu de femmes qui se sont retrouvées sur la scène du travail. On nous dit à peu près 30% des femmes afghanes étaient actives en 2019, ce qui est peu par rapport au nombre de femmes présentes sur la scène, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution de leur présence, elles étaient beaucoup plus libres de circuler, de pouvoir parler déjà. Effectivement, aujourd'hui, avec l'arrivée des talibans sur place, elles vont certainement être muselées. Mais j'ai espoir d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les responsables talibans, je parle bien des responsables et non pas des soldats, les responsables talibans, je pense qu'ils ont appris à être un peu plus politiciens. C'est-à-dire, ils ont intérêt à savoir gérer un État. Donc, ils vont essayer de faire… D'ailleurs, ils ont essayé de le montrer. Maintenant, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas? Et leur première déclaration, c'est de dire « on ne va pas maltraiter les femmes ». C'est déjà un bon signe. Mais le problème, c'est qu'entre des responsables politiques qui ont une certaine ouverture aujourd'hui, et les soldats qui n'ont aucune ouverture d'esprit, c'est là où le problème va se poser. Il va y avoir un passage difficile pour que la femme puisse reprendre sa place, la petite place qu'elle a eue entre-temps dans la société afghane.
Alors oui. Précisément, Zeyne Altibi, dans votre livre, donc La condition de la femme musulmane, dans le chapitre consacré aux idéologies extrémistes, il y a effectivement une partie sur l'Afghanistan que vous intitulez l'aberration afghane, vous référant donc au régime des talibans de 1996 à 2001 et puis maintenant aujourd'hui régime que l'on retrouve. Et alors, vous avez sélectionné un certain nombre de mesures qu'à l'époque les talibans avaient édicté, alors effectivement, avec l'interdiction totale du travail, la femme qui ne peut pas sortir sans un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne, l'interdiction pour les femmes de se faire soigner par un médecin homme, cela dit, bon, en Occident, on voit des maris qui le demandent, d'aller à l'école, à l'université, terrible, pouvoir être fouetté, lapidé, on se souvient effectivement des lapidations lors de soi-disant adultères, l'interdiction de rire. Est-ce que vous pensez que voilà tous ces interdits peuvent aujourd'hui
d'écouter de la musique,
etc. Bon, toutes ces aberrations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore possible ça, toutes ces règles édictées par les talibans il y a 20 ans?
Bien, écoutez, je pense qu'il y a eu quand même une évolution, mais il leur faut du temps pour rééduquer non pas les femmes qui ont eu pendant quelques années une sorte de liberté, il faut rééduquer les soldats talibans, c'est-à-dire que ces jeunes qui n'ont appris que la violence et l'aberration justement de leur comportement vis-à-vis des femmes et vis-à-vis de la société afghane en général, il y a un moment d'éducation parce que là, ils ont une responsabilité de gouvernance. C'est-à-dire, ils vont être obligés de savoir gérer ce pays. Parce qu'ils vont avoir besoin quand même de l'aide de l'étranger. Ils peuvent pas vivre en autarcie tout le temps comme ça. C'est pas possible. Et puis, fut un temps, ils avaient l'aide de l'Arabie Saoudite. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, cette aide-là n'existe plus. Parce que même l'Arabie Saoudite, on voit bien qu'il y a eu une évolution positive. Donc, étant donné qu'on voit cette évolution, l'Arabie Saoudite ne peut plus se permettre d'aider des extrémistes talibans. C'est-à-dire que les talibans vont être obligés, excusez le terme, de mettre de l'eau dans leur vin. Voilà.
Effectivement. Oui.
Donc, malgré tout, malgré cette ambiance angoissante que vit la société afghane, et notamment les femmes afghanes, ils vont être obligés d'atténuer leur discours.
Zeyne Altibi, donc vous espérez un éventuel assouplissement de la part des talibans. Dans le même temps, leur idéologie, c'est un mix entre l'islam déobandi et le code tribal pachtoun.
En fait, ce sont les traditions, les lois coutumières, ils ne sont pas liés à l'islam et à la charia réellement. Ce sont des coutumes et des us et coutumes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que si jamais on regarde en profondeur la religion musulmane, cette religion a donné les droits à la femme, le droit à l'éducation, le droit à l'héritage, le droit de choisir son mari. Tout ça, c'est codifié. Et eux, ils contestent tout cela, ce qui est quand même étonnant. Parce que si jamais ils connaissent vraiment l'islam qu'ils veulent appliquer, puisqu'ils se disent islamistes et musulmans, s'ils doivent appliquer l'islam, ils doivent l'appliquer comme il faut. L'islam, c'est la religion du juste milieu, c'est-à-dire loin de toute exagération.
Oui, je précise effectivement que votre livre, hein, donc La condition de la femme musulmane, que vous signez aux éditions du CERF, prend le contre-pied quand même, hein, d'un discours classique en Occident, un discours que vous estimez réducteur, simpliste, qui consiste à voir dans l'islam une religion qui opprime la femme et qu'en fait ce seraient des dérives conservatrices et voire extrémistes qui seraient donc à l'origine de la situation difficile de la femme dans bon nombre de pays musulmans, oui.
Oui, qui ont contribué à donner cette image complètement fausse. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque part une instrumentalisation politicienne, que ça soit dans les pays arabes ou dans les pays musulmans autres, c'est-à-dire le Pakistan, l'Afghanistan ou l'Iran. Il y a énormément d'influence et d'interférence politique. Mis à part, on revient pour parler de la femme, c'est quand même étonnant. Chaque fois qu'il y a un problème politique ou une influence politique, la première personne qui est visée et qui est montrée du doigt, c'est la femme. En fait, moi, je suis convaincue que les hommes ont peur de l'influence de la femme parce qu'elle les bloque dans leur mouvement. Ils n'ont pas encore assimilé l'idée qu'une société doit marcher avec ses deux pieds. Donc, la femme et l'homme.
Petite page d'histoire avec vous, Zeyna Altibi, que vous rappelez hein, dans ce chapitre justement sur l'Afghanistan, dans votre livre, c'est que selon vous, les souverains, enfin quand il y a eu une monarchie, oui. Ça allait beaucoup plus dans le sens effectivement d'un islam réformé.
Tout à fait, c'est vrai. En fait, ça a été partout. Mais le problème, que ça soit à Bagdad, en Égypte, même au Yémen, du temps du roi, de la monarchie au Yémen, c'était beaucoup plus évolué. Il y a eu une volonté vraiment très très profonde au début du XXe siècle d'évolution, de réforme. Le roi du Maroc, Mohamed V, qui dès l'indépendance du Maroc a montré la volonté de pousser la femme marocaine à s'investir dans la société et à se dévoiler.
Oui, mais là, je parle de en Afghanistan, hein, de cette reine Soraya que vous citez dans les années 20, qui va travailler avec son mari pour une ouverture précisément et pour une amélioration de la condition de la femme.
Bien sûr, si vous voulez, il y a une volonté, on sent que les monarchies, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran avec le Shah d'Iran, que ce soit au Maroc avec Mohamed V et aujourd'hui Mohamed VI, il y a cette volonté de montrer l'importance de la femme musulmane, mais à travers l'islam lui-même. Ce n'est pas juste comme ça pour imiter l'Occident. Bah, en fait, si vous voulez, que ce soit l'Afghanistan ou d'autres pays ont, à une époque, voulu évoluer et faire évoluer leur société. Le roi Mohamed Zahed Shah, avec son épouse, ont fait de façon à influencer un tout petit peu la société en imposant, si vous voulez, le fait de faire évoluer la femme afghane dans la... que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'éducation et tout. Et je vous le redis, il s'appuie quand même sur des préceptes musulmans. Ils ne sont pas loin de cette idée-là. Mais malheureusement, la mentalité de que ça soit à l'Afghanistan ou ailleurs, cette mentalité de région éloignée est plus forte que cette volonté d'évolution, parce que d'une part, c'est la peur de l'inconnu, de un, et de deux, c'est le fait de perdre aussi un pouvoir. Le pouvoir, c'est ce pouvoir, le poids des traditions patriarcales. Donc, le roi a été destitué, il a été renversé par son cousin, et tout a été remis en question.
Dernière question, Zeina El-Tibi. Je rappelais donc au début de cette émission que vous êtes présidente, la présidente de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les femmes afghanes?
Je vous avoue franchement que notre association, c'était surtout pour les journalistes qui viennent, journalistes arabes, qui viennent de des pays arabes.
Oui, là, les effectivement, aider à, voilà. On est en Asie centrale, bien sûr.
Voilà. Là, mais si jamais on nous demande, on est prête à faire des gestes, à les accueillir, à voir comment on peut les intégrer pour trouver du travail, pour bien sûr, parce que c'est surtout les femmes journalistes. La seule chose, c'est il faut avoir aussi le lien nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire quelque chose. Mais bon, j'avoue franchement qu'avec la Covid, c'est pas toujours évident. On a toujours travaillé, toujours été active. Là, on est un tout petit peu freiné par cette ambiance un peu angoissante de la pandémie.
Bon, il y a encore effectivement cette période qu'il faut finir de traverser, j'allais dire. Je vous remercie, oui, Zeina El-Tibi. Donc, je rappelle, La condition de la femme musulmane, un livre que vous publiez aux éditions du CERF. Je vous remercie.
Merci, merci à vous.
Demain soir commence Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Les fêtes juives, la tradition, il y est largement fait allusion dans le roman de David Alouche, « Parler à ma mère », publié chez Ballant. On l'aura compris rapidement avec le titre. Le personnage auquel se réfère le narrateur, c'est bien la mère, la mère juive, votre deuxième roman, David Alouche, après la kippa bleue. Bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors, la mère juive, il fallait en parler. Pour vous, c'était incontournable. Hein.
C'est incontournable.
Grande tradition, quand même.
Grande tradition littéraire, oui. Grande tradition au cinéma avec Woody Allen. C'est une mère mythique dont on parle tous les jours, ou en tout cas très, très régulièrement dans les médias, etc. Et donc j'ai voulu, avec ma version à moi de la mère juive, aborder ce thème délicat, tendre, et sympathique. Hein.
Et nostalgique aussi.
Et nostalgique, mélancolique, Vous avez raison.
Alors cette mère juive, il fallait la mettre en scène dans cette fiction qui a pour fil conducteur donc les séances chez un psychanalyste d'un quadra qui est mal, mal dans sa vie. Sa femme est partie, il élève son fils seul. Son travail, il est en rupture professionnelle, il change complètement de vie professionnelle, il ne travaille plus. Il joue beaucoup au tennis en revanche. Bon, il est en pleine déprime en quelque sorte. On peut dire qu'il est en pleine déprime. C'est tout cela dans votre roman aussi. C'est non seulement la mère juive, mais c'est aussi toutes les questions sociétales qui se posent et qui se posent à ce garçon qui aussi est en quête d'identité, parce que Dieu qu'il a largement fréquenté pendant son enfance, dans cette famille orthodoxe, eh bien, il est plus en lien très étroit avec lui.
Tout à fait. Alors, c'est déjà un homme qui a tout réussi, avant d'arriver dans cette crise. Il a tout réussi. C'est un entrepreneur, il a fait une start-up, il a fait fortune, il a trouvé l'amour avec sa femme, il est père. Donc, c'est un homme qui a tout réussi et qui va vivre une crise, un événement un peu dramatique, qui va du coup le chambouler, et lui faire traverser une période de mélancolie, de crise de la quarantaine si on veut, et duquel il va réchapper. Donc c'est un livre sur la résilience aussi, puisqu'il va s'en sortir, il y a happy end à la fin.
Alors les séances, c'est le psychanalyste, il y en a plusieurs, elles sont assez coûteuses d'ailleurs, mais le psychanalyste lui dit bon, il faut quand même payer pour vous en sortir.
Voilà, il y a tout un jeu avec le psychanalyste.
Il y a tout un jeu avec le psychanalyste qui est très patient d'ailleurs.
Oui, il essaye de faire le bon psychanalyste, il essaye d'aider Isaac, qui est le personnage principal, le narrateur. Il essaye essaye de l'aider à s'en sortir. Mais en fait, Isaac ne prend pas si au sérieux que ça, le psychanalyste. Il le prend plutôt comme un partenaire de tennis. Et donc du coup, il essaye avec lui, donc c'est des joueurs, il joue verbalement en fait avec lui, et il essaye de gagner le point, de gagner la phrase, de gagner le jeu, de gagner le set. Et peut-être pas de s'en sortir.
Vous êtes joueur de tennis, David
Alouche?
Ah oui, c'est ça. Pour écrire tout ce que vous avez écrit là, je me suis dit, il joue au tennis.
Oui, j'aime bien jouer au tennis.
Alors, il y a effectivement beaucoup d'aspects dans ce roman. Allez, on va commencer par celui de l'identité. Il se cherche.
Parce qu'il a eu cette épreuve. On raconte l'épreuve.
On la raconte, cette épreuve. Il a été marié avec Emma.
Voilà, il a été marié avec Emma, il a un peu tout quitté pour Emma, et il se retrouve victime d'une insulte de la part d'Emma, d'une insulte antisémite. Et cette insulte va le mettre en situation délicate. Du coup, ça va engendrer une crise importante dans le personnage, et ce qui m'intéressait moi dans le livre, justement, c'est de parler un peu d'antisémitisme. Alors, on parle beaucoup d'antisémitisme, bien sûr, dans les médias, dans l'actualité, parce qu'il y a des agressions antisémites, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'en parler dans le couple, dans l'intime. Et que faire de l'antisémitisme d'une personne qu'on aime, de la personne qu'on aime?
Oui, qui lui dit, on va dire, on va être cash, hein. Elle lui dit « connard de juif », c'est ça?
C'est ça. C'est ça. Et alors qu'il n'a jamais vécu d'agression antisémite, il a toujours vécu de manière assez protégée, sans être... Donc c'est sa première, peut-être la dernière,
agression
antisémite de la part de quelqu'un qu'il aime. Hein, avec qui il a fait un enfant et avec qui le couple se passe, plutôt bien. Hein. Et donc du coup, il a cette question, il ne sait pas quoi faire de ça, puisque c'est facile de réagir quand on ne connaît pas l'agresseur, ou quand il est loin de nous,
mais quand on l'aime,
ça change tout, et c'est ça qui va provoquer sa crise de la quarantaine et sa remise en question de sa vie.
Alors, avant de parler de sa crise de la quarantaine, il y a cette explication qu'il faut absolument donner, c'est qu'il a épousé Emma qui n'est pas juive, et du fait de ce mariage, eh bien, il y a rupture avec sa famille parce que Isaac vient d'une famille orthodoxe.
Tout à fait. Il vient d'une famille orthodoxe, il a été élevé dans la religion. Il est ensuite tombé amoureux d'Emma, qui n'était pas juive. Il y avait conflit, bien sûr, entre la tradition orthodoxe et puis l'amour. Et il a choisi l'amour. Et là, l'amour s'effondre autour de cette insulte, autour de ce conflit avec sa femme. Et donc, il se trouve un peu perdu. Il avait perdu les siens, et là, il perd sa femme. Donc, du coup, la crise commence, mais on va voir qu'il va rebondir assez vite.
Alors, il faut préciser que lorsqu'il a monté une start-up dans la finance qu'il a rendu riche, il l'a faite avec un ami de sa yeshiva, qui s'appelle Michael. Alors, c'est très drôle parce que Michael, il a construit sa vie. Michael, il est parti. Lui, il s'est marié avec Sarah, qui est donc juive. Il est parti à Brooklyn. Et alors, c'est très drôle. Vous dites, Michael, maintenant, il pousse la poussette
à New York.
Et c'est là qu'il a une envie d'enfant.
Voilà, tout à fait. Eh ben, ils sont deux copains, ouais. deux amis toujours, depuis l'enfance, avec la même tradition, la même éducation. L'un tombe amoureux d'une femme juive et tout se passe bien, il reste conforme. L'autre tombe amoureux d'une femme non juive et ça va créer une séparation avec sa famille qu'il va devoir dépasser dans sa vie.
Alors, cette crise de la quarantaine, elle se manifeste, bien sûr, par ce passage dépressif, du fait de sa nouvelle solitude. Il élève aussi ce petit garçon, Gabriel, tout seul. Gabriel a à peu près 6-7 ans.
6-7 ans, tout à fait.
Voilà. Ça va se manifester par une rupture professionnelle. Il quitte la finance.
Voilà. Alors, il décide de quitter la finance.
Il a les moyens de quitter la finance.
Et en fait...
Ça n'intéresse plus, l'argent?
Voilà. Ou il en a assez. Il a assez d'argent pour que l'argent ne l'intéresse plus. Je crois que c'est ça sa réponse. C'est ça le luxe, c'est un peu le luxe. Donc il peut se permettre de jouer au tennis et de ne pas se préoccuper des questions financières. Et surtout, du coup, il se dit quoi faire de sa vie. Et ce qui le tient dans ce livre, c'est bien sûr le tennis, c'est bien sûr les mots. On verra quel rapport aux mots, aux psychanalystes et aux mots. Et bien sûr, le rapport à son fils. Donc il se consacre pleinement à l'éducation de son fils, à lui parler, à échanger avec lui, de manière à élever cet enfant dans une famille présente.
Mais alors, ce que vous avez voulu signifier, quand même, manifestement, David Alouche, dans votre livre « Parler à ma mère », c'est une crise sociétale, la crise du couple, la crise de la famille. Je vais lire un petit passage de votre livre. Ma famille s'est-elle défaite sous la forme des égoïsmes ? Point d'interrogation. J'appartiens à la génération qui aura connu la désinstitutionnalisation de la famille. 80% des divorces sont aujourd'hui demandés par les femmes. Ce n'est pas la liberté qu'on a gagnée, mais l'angoisse, le désarroi et la difficulté de transmettre. Après, nous vivons dans un trop-plein normatif et de recommandations de psychologues qui ont remplacé les prêtres, les rabbins, etc. Bon, mais là, manifestement, c'est cette crise de la famille que vous voulez mettre en avant. Ça vous touche ? Vous avez autour de vous beaucoup de divorces, je suppose ?
Oui, bah oui, quand on vit à Paris.
Quand on vit à Paris.
On voit tous autour de nous beaucoup de divorces, beaucoup de familles monoparentales, des familles recomposées. C'est vraiment...
C'est triste pour vous, ça ?
Oui, c'est triste. Hein. C'est triste parce qu'on voit... On voit des couples qui tenaient pas si mal, ou en tout cas qui semblaient heureux. Et on voit ces couples se déliter. Donc ça fait un peu de peine, mais surtout ça invite à questionner la famille. Et c'est ce que fait un peu le livre,
oui.
Puisque du coup entre disons la famille disons classique, où on se marie jeune et on reste toute sa vie avec quelqu'un. Aujourd'hui, la famille se remodèle selon différents aspects. Et la famille auquel tient tant, parce qu'il a une éducation traditionnelle, orthodoxe traditionnelle, donc lui il tient à la famille, du coup il est un peu affecté par cette perte de la famille, et il décide de former une famille avec Gabriel, une famille monoparentale, comme on dit aujourd'hui, une famille à deux, une famille unie, une famille aimante.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est David Alouche pour son livre « Parler à ma mère » publié chez Ballant. Alors, et Dieu dans tout ça, votre roman me rappelle un livre, une autobiographie qui m'avait beaucoup impressionné. J'avais invité l'auteur, c'est Shulemdine,
Shulemdine,
pour son livre « Celui qui part ne revient pas ». Il racontait son exclusion de la communauté, c'est une communauté ultra-orthodoxe de près de New York, son exclusion parce qu'il ne correspondait plus à la vie, soi-disant, d'un juif pieux. Et ça me rappelle beaucoup ce livre qui m'avait beaucoup impressionné, ce garçon qui s'était retrouvé au banc de sa communauté comme un hérétique, et qui avait dû d'ailleurs partir et ne pas élever ses enfants.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce livre-là est cité
oui,
dans
vous
le roman.
Citez, hein, absolument.
Il est tout à fait cité dans le roman, puisque c'est la question intéressante. Et la question que se pose le personnage, elle est un peu inverse à l'auteur de « Celui qui part ne revient pas ». Il est qu'il essaye de revenir.
Lui, il essaye de revenir. Alors que Shulemdine, non.
Non.
Il est devenu journaliste, etc.
Donc voilà. Oui. Donc il essaye de revenir. Alors peut-être pas dans sa communauté, dans une certaine, judéité.
Oui. Et il fait Kippour d'ailleurs.
Voilà.
Il fait Kippour. Il ne travaille pas le jour de Kippour.
Voilà.
Non pas qu'il s'adonne au rituel, mais il ne travaille pas.
Voilà. Il fait Kippour à sa façon. Hein, ça devient un juif culturel.
Il bricole.
Voilà, il pratique pas de manière orthodoxe, de manière totale, mais il participe à sa manière, avec son cœur, de la manière dont lui peut le faire.
Mais d'ailleurs, quand il était plus jeune, quand il était dans sa yeshiva, il dit qu'il était passionné par la Gemara et qu'il préférait la Gemara à la Mishnah. Et la Gemara qu'il lisait le soir, c'est technique. Hein. Bon, c'est la littérature rabbinique, on va dire, pour simplifier, et que le soir, il lisait donc la Gemara avec une lampe frontale.
Oui, c'est un passionné. C'est un passionné du texte et des mots. Alors, les mots étaient en hébreu. Il est peut-être passé des mots en hébreu aux mots en français.
La littérature rabbinique vous passionne, David Alouche ?
Personnellement, non. Pas la littérature rabbinique. Mais ce qui m'intéresse, c'est la Bible.
La Torah.
Hein, donc, la Genèse. Je relis régulièrement ou de temps en temps quelques extraits de la Genèse qui m'émeut. Il y a une richesse de personnages, il y a des couleurs, il y a des formes plutôt simples, mais en même temps assez fortes. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent à la lecture et à l'écriture à relire de temps en temps la Genèse par exemple, ou la Bible en général. J'aime beaucoup la Bible, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vous, David Alouche, dans votre personnage, dans Itza qui, bon, est dans la finance, Vous aussi, vous étiez dans la finance d'une autre façon. Hein. Vous l'étudiez, voilà. Vous êtes un spécialiste de la finance moderne, mais en tant que conférencier.
Voilà. La finance solidaire. Mais, alors, il y a tout écrivain, il écrit à partir de son expérience personnelle. Donc moi, j'ai écrit, si on veut chercher un peu plus sur moi, avec mon expérience de divorce, avec mon expérience d'éduquer un enfant, avec bien sûr ma mère. Ma mère est assez présente dans le livre directement. Donc j'ai écrit avec mes expériences. Le livre est nourri de mes expériences. Après, il est autobiographique. C'est-à-dire que l'histoire qui est contée ne m'est jamais arrivée. Hein. Voilà. Par contre, il y a des expériences pas loin du personnage dont je me nourris, qui permettent de donner de la couleur, de donner de la vie hein, à ce personnage.
Vous pratiquez ?
Non, je pratique pas.
Mais Dieu, vous le recherchez.
Voilà. Et alors, le personnage, là-dessus, c'est un point commun avec le personnage. Il pratique à peine ou il pratique pas véritablement. Mais il reste fondamentalement, on va dire, spirituel. C'est-à-dire qu'il croit aux signes qu'on lui envoie. Alors, que la vie lui envoie, que Dieu lui envoie, si on veut. Et donc, par exemple, quand il a un papier dans sa poche pour aller à telle adresse, il y va. Il se dit pas foutaise, il se dit il faut que j'y aille. Quand il fait une rencontre amoureuse qui le marque, il a l'impression que ça vient d'ailleurs. Même si c'est les réseaux sociaux, il y croit, il fonce, il y va. Donc il croit à la rencontre, il croit au signe de la vie. Alors envoyé par la vie ou envoyé par l'au-delà, comme vous voulez.
Alors son réconfort, c'est l'écriture. Vous aussi, c'est l'écriture.
Tout à fait.
Qui a changé manifestement le cours de votre vie professionnelle.
Tout à fait, tout à fait. Et il fait le basculement, hein, il fait le basculement entre l'enseignement, l'entrepreneuriat, et puis une envie d'écrire, une envie de mots, une envie de revenir à quelque chose de plus littéraire. Et donc du coup, c'est vrai que son réconfort, c'est d'écrire sur son enfant, sur sa mère, sur sa femme. Et c'est vrai que ça, c'est un des points communs que j'ai avec le personnage.
Alors, c'est un livre pour les mères, pour les fils.
Alors, c'est un livre pour tout le monde. mais bien sûr pour les mères, puisque c'est la mère juive, donc du coup, les mères aiment beaucoup, se retrouvent beaucoup dans ce personnage. J'ai eu pas mal de lectrices qui me l'ont confirmé, qui sont beaucoup dans ce personnage de mère follement aimante de son fils. Hein. Elle est follement aimante et moderne. C'est ça la différence, par exemple, avec le livre de ma mère, d'Albert Cohen, hein, qui est un peu une référence en la matière. Mais c'est aussi un livre pour les plus jeunes, puisque c'est l'histoire d'amour d'aujourd'hui, c'est assez contemporain, c'est assez moderne, et ça parle de l'identité dans un monde moderne.
David Alouche, on ne peut pas ne pas finir sur une histoire juive, une histoire de mère juive. Vous en avez sûrement, non ?
Bien sûr. Ah oui, il y a une histoire de mère juive qu'on m'a racontée petit. Qui n'est pas si connue que ça, que je vais vous raconter. Alors, elle est attribuée à Woody Allen, mais ça ne va pas être le cas. Donc, c'est trois mères juives, on va dire 70 ans, qui sont sur la plage. Alors, à Miami, si on pense à Woody Allen, à Tel Aviv, hein, aujourd'hui, ou à Marseille. Donc, c'est trois mères juives de 70 ans qui discutent tranquillement avec un parasol. Et la première dit, vous savez ce qui m'est arrivé la semaine dernière ? Alors, les autres la regardent et lui disent, ben non. Elle dit, ben, mon fils est venu. Elle dit, alors ? Eh ben, mon fils est venu, il a vu que j'avais une robe un peu élimée, un peu vieille. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a renouvelé toute ma garde-robe. Alors les autres ne sont pas impressionnés. Et la deuxième dit, mais moi aussi mon fils est venu la semaine dernière. Alors elle dit, et alors ? Ben, il a vu que mon mobilier était vétuste, que les tables et les chaises étaient bancales. Il a renouvelé tout mon mobilier. Alors la troisième, qui n'a rien dit, qui ne fait que sourire depuis le début, dit, mais moi, mon fils, c'est encore mieux. Moi, mon fils, il va trois fois par semaine chez un monsieur qu'il paye très cher pour parler que de moi.
Ah, j'ai compris l'origine de votre livre, David Alouche. Je vous remercie. Parler
merci,
à ma mère, parler à mon psychanalyste au passage. C'est votre roman publié chez Valant. Merci, David Alouche.
Merci, Geneviève.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.